Radio Kapi. Oh, Kapi. Midi pile à Kinshasa, 13h à Beni au Nord Kivu. Voici sans plus tarder les titres de ce journal. Au moins 10 personnes tuées, plusieurs maisons incendiées hier vendredi par les miliciens Mobondo dans le village Epongi, en territoire de Popokabaka. Ce bilan provisoire est livré par le gouvernement provincial et la société civile de Kwango. Au Nord Kivu, 40 jeunes ex-combattants et à risque sont en face de clôturer leur formation à métier de 6 mois au centre Uhuru-Knolds, situé à Sake, à plus ou moins 30 km de Goma. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'un projet de réinsertion socio-économique des jeunes financé par la MONUSCO. Au Nord Kivu encore, la deuxième phase de la campagne de vaccination a été lancée mercredi dernier à Goma par le gouverneur du Nord Kivu. Environ 2 millions d'enfants de 0 à 59 mois sont concernés par cette vaccination contre la poliomyélite sauvage sur l'ensemble de la province. Nous recevons à ce sujet comme invité le chef de division de la santé, Janvier Koubouya. Merci encore une fois d'être avec nous, Pierre Diassounoua, sur la technique. Devant ce micro, Jean-Désiré Kanyama. Mesdames, messieurs, bonjour. Au moins 10 personnes tuées et plusieurs maisons incendiées hier vendredi par les miliciens Mobondo dans le village Ipongi, en territoire de Popokabaka. Ce bilan provisoire est livré par le gouvernement provincial et la société civile. À en croire le gouvernement du Kwango, cette incursion fait suite à l'arrestation par la population il y a quelques jours au village Fama Kalonga à Popokabaka du chef des miliciens qui a été transféré à Kenge où il a été auditionné. Des dispositions sécuritaires sont prises pour rétablir l'ordre, rassure le gouvernement provincial. Explication avec vous, Irène Boma.
D'après les porte-parole du gouvernement provincial du Kwango, c'est précisément de la mission catholique Ipongi située dans les territoires de Popokabaka que ces assaillants de la milice Mobondo ont opéré dans la journée d'hier vendredi. Maître Adelar Nkissi.
Nous apprenons que c'est en représailles de l'arrestation de leur colonel qui est avec nous ici à Kenge, sous instruction. Ils ont incendié des maisons, plusieurs maisons dans le village Kipongi à Popokabaka. Et le bilan provisoire des personnes tuées par coup de balle et par coup de machette s'élève à ce chiffre à 10. Et plusieurs autres personnes ligotées, on ne sait pas si on va les molester ou comment. Mais sur le plan sécuritaire, les dispositions sont déjà prises. On a déjà pris disposition d'envoyer effectivement des éléments pour essayer un peu de maîtriser la situation dans ce coin-là. Et j'insiste, plusieurs autres personnes déjà été ligotées. On ne sait pas s'ils sont vivants.
Cette information est confirmée par la société civile du Kwango qui propose l'organisation d'un dialogue avec la participation de la milice Mobondo afin de mettre fin à cette tuerie. Notez que les couvre-feux restent de rigueur au Kwango depuis quelques mois à cause de l'insécurité et pour le moment, il va de 22h à 6h du matin. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Au Kwango central, pendant ce temps, le présumé chef de file de la milice Mobondo, appréhendé et arrêté depuis le 31 juillet dernier au village Kimakungu, secteur de Lula, Lumene, dans les territoires de Kimvula, par les militaires FARDC, a été présenté hier à l'autorité provinciale. Selon Guy Bandou Ndungidi, ce présumé chef de file de la milice Mobondo a commis plusieurs exactions dans les territoires de Kimvula au Kwango central, lesquelles ont occasionné le déplacement massif de la population. Les points avec Nana Plurich Mambou.
Ce présumé chef de file de la milice Mobondo a été appréhendé par le peloton de la 12e région militaire. Ce peloton a été déployé par le gouverneur de province sur décision du Conseil provincial de sécurité au mois de juin dernier dans les secteurs de Lualumene, en territoire de Kimvula, où étaient signalées des incursions à répétition de cette milice. Avant son arrestation, ce présumé responsable de la milice Mobondo a commis plusieurs exactions, comme le confirme ici les porte-parole de la 12e région militaire, le colonel Jean-Louis Chimwanga.
Plusieurs villages ont été attaqués durant le mois de mai. Le village final, une dame au nom de Moseka, a été exécutée devant son mari et le commandant, c'est cet homme devant vos excellences. Dans un groupe de 58 personnes qu'il commandait, il n'y a que lui qui avait l'arme et une tenue militaire.
Pour le gouverneur de province, l'arrestation de ces présumés malfaiteurs vient soulager la population longtemps terrorisée par les membres de cette milice. Gibon Dundungidi.
Plusieurs villages ont dû se vider et le fait que l'armée a pu mettre la main sur celui qui était commanditaire de toutes ces exactions, ça va rassurer notre population de sorte qu'elle puisse regagner son lieu de vie.
C'est samedi, ce présumé chef de file de la milice Mobondo sera transféré à l'état-major renseignement des forces armées à Kinshasa pour être auditionné avant qu'il soit jugé par l'auditorat militaire de Kinshasa. Matadi, Nana Pliriche Mambo, Radio Okapi.
En Ituri, manifestation ce samedi matin de certains étudiants de l'université de Bounia, Inibou. Ils protestent contre l'arrestation lundi dernier de leur secrétaire général, administratif et président du G5, une structure qui regroupe les communautés qui se disent victimes des groupes armés. Ce dernier est poursuivi par la justice militaire pour participation à un mouvement insurrectionnel. Les forces de l'ordre sont intervenues en tirant des bombes à gaz lacrymogène pour disperser la foule en colère jusque dans l'enceinte de l'université. Témoin de l'événement, Martial Kizabiamungu.
C'est aux petites heures de la matinée que certains étudiants en colère ont brûlé des pneus sur le boulevard de la Libération, juste devant les portails d'entrée de leur institution, ce qui a perturbé momentanément la circulation sur cette artère principale de la ville. Quelques manifestants retrouvés sur le lieu justifient leurs actes.
On libère notre secrétaire général.
On réclame la liberté de notre autorité qui, surtout, on n'a pas respecté la procédure d'arrestation. S'il est coupable, il peut aller suivre la procédure.
Les maires de la ville de Bounia, accompagnés des nombres importants de la police, est arrivé sur les lieux pour dégager la route et la circulation a repris normalement. Quelques minutes après, la situation a dégénéré entre la police secondée par les éléments de la police militaire PEM et les manifestants qui voulaient coûte coûte barricader de nouveau la route. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour contenir la foule. Les maires de la ville, les colonels Mbouiko Labosco, rassurent que la situation est sous contrôle.
Il y a le passage, il y a la fluidité, il y a les gens qui passent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème. Nous sommes là, nous allons les gérer. Une infraction est individuelle. Je leur dis qu'ils restent calmes. La justice est en train de faire son travail.
Entre-temps, les activités académiques sont paralysées à l'Inibou. Depuis les boulevards de la Libération à Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, 40 jeunes ex-combattants et à risque sont en phase de clôturer leur formation en métier de 6 mois au centre Ouroknolj, situé à Sake, à plus ou moins 30 km de Goma. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'un projet de réinsertion socio-économique des jeunes financé par la MONUSCO. C'est dans le cadre de la célébration ce samedi 12 août de la Journée internationale de la jeunesse. Bernard Nyangui a visité ce centre. Voici son reportage.
L'édition 2023 de la Journée internationale de la jeunesse table sur la jeunesse et l'avenir de l'homme. C'est ce qui explique la démarche suivie par le centre Ouroknolj qui a initié cette approche de formation en art comme une alternative des réinsertions sociales des jeunes dont se sortit de groupes armés. Prince Sabouni est superviseur de ce centre situé à Sake.
Tout le monde connaît la situation qui se passe à Massissi. On veut donner le sourire à la population à travers nos programmes, la culture et art, la résilience économique et de vivre ensemble. On veut partager des expériences avec les jeunes qui pendant beaucoup de temps ont souffert par la guerre.
Lancé mi-mars 2023, le projet d'espace culturel et de formation du centre Ouro, financé par la MONUSCO pour 6 mois, porte déjà ses fruits. Comme en témoigne ici Bauma Bertin, un ex-combattant désormais ajusté.
Ce centre est d'une grande importance pour moi. Avant, j'étais recruté dans les groupes armés. Maintenant, je suis formé en ajustage. Je suis maintenant capable de souder une porte métallique, brasero et autres.
Ce projet de Ouroknolj Senta a la particularité de doter aux jeunes des outils d'art et la culture, de passer des messages de non-violence et s'auto-prendre en charge. Goma, Bernard Dengue, Radio Capi.
Et puis la rentrée scolaire édition 2023-2024 pointe à l'horizon. Cependant, les enseignants du territoire de Bounia, aussi de la province du Maniema, se disent jusque-là être privés de leur salaire depuis le mois de mai dernier. Le permanent territorial de Bounia se pose la question de savoir comment dans cet état des choses ils vont organiser la rentrée scolaire. Afinde Kibuka David a été joint par Florence Kizalunga.
Nous sommes partis depuis le mois de mai à nos jours. Jusque-là, les salaires des mois de juin ne sont pas encore en possession des enseignants des territoires de Bounia, au Maniema. Alors, nous avons déjà reçu les correspondances du ministre pour les instructions et les directives de la reprise des cours. Alors, face à cet aspect, au message, c'est comme si les gens ne sont pas informés, les gens ne sont pas vraiment outillés en matière de ça. Comment la santé des territoriaux, et en particulier les territoires de Bounia, jusque-là, les salaires des mois de juin ne sont pas encore sortis. Alors, d'ici là, nous allons écouler les mois d'août et les 4 fallait qu'on procède à l'ouverture. Est-ce que nous serons en possession des salaires de 2 mois avant l'ouverture? Alors, je suis secoué par les enseignants. Je vous adresse ce message qui est utile. Sinon, l'EPST est sentimental. Quoi? Au Maniema, sur ce territoire, il y a 4 qui sont déjà servis. Sauf Kibombo, Kailo et Pounia. Nous n'avons même pas les mêmes calendriers. Nous n'avons pas les mêmes souffrances. Alors, face à cet acte, on pousse aux gens que nous croisons les bras d'abord, hein, en attendant que la reprise soit effective.
Lancement officiel hier vendredi à Kinshasa des activités de l'Agence congolaise des promotions immobilières, ACOPRIM en sigle. C'était lors d'un point de presse animé par son directeur général, Mika Kayemba Mukeba. Selon lui, la réforme de l'ACOPRIM vise à améliorer l'accès effectif des populations au logement décent et abordable pour contribuer à la vision du chef de l'État en rapport avec le plan local de développement des 145 territoires. On l'écoute au micro de Merveille Hassani.
L'ACOPRIM, c'est un établissement technique et scientifique qui a pour mission la construction des logements décents et abordables, mais aussi des équipements socio-communautaires de base, mais aussi l'ACOPRIM se chargera de la gestion et de la réhabilitation du patrimoine immobilier du domaine privé de l'État. L'ACOPRIM a aussi pour objet l'approbation, le suivi et l'évaluation des projets immobiliers. C'est-à-dire qu'à partir de ces jours, fini les désordres dans le domaine de l'investissement immobilier. Et dans ce domaine, les chefs de l'État visent trois choses. Ils veulent voir chaque Congolaise et chaque Congolais disposer d'un logement décent qui soit à sa bourse. Et la deuxième chose, il veut voir que chaque ville et chaque cité qui existe déjà soit modernisée et les nouvelles villes et nouvelles cités soient construites suivant les normes urbanistiques. Et enfin, la résorption des zones de pauvreté urbaine. Plus de projets dans l'immobilier sans ACOPRIM. Et nous profitons de cette occasion pour lancer un appel pressant à tous les promoteurs immobiliers de nous approcher avec les projets qu'ils ont pour que ces projets puissent avoir notre approbation et jouir de notre accompagnement.
Et pendant ce temps, la société civile des territoires de Beni, au Nord Kivu, déplore l'opacité dans l'exécution des travaux du programme de développement des 145 territoires. Dans une déclaration faite à Radio Okapi, son premier vice-président, Richard Kirimba, affirme que seuls quelques projets de construction des écoles et centres de santé ont été réalisés, mais rien dans d'autres domaines ciblés, notamment des infrastructures routières, de l'eau et de l'électricité. Pour y voir clair, la société civile du territoire de Beni recommande des enquêtes sérieuses pour faire le point et la lumière sur l'exécution de ce programme, surtout sur la procédure de passation des différents marchés. Richard Kirimba est au micro de André Kitenge.
Ce programme devient de plus en plus une déception aujourd'hui, alors qu'il était au début considéré comme un programme salutaire, surtout pour le territoire de Beni qui a déjà été détruit par les affres de la guerre depuis 2014, voire 2009. D'abord, sur les différents axes du programme, il faut signaler qu'il n'y a que les projets liés avec la construction des écoles et la construction des centres de santé qui ont été exécutés et se trouvent aujourd'hui presque à fin des travaux de finissage. Mais d'autres projets de ce programme cadrent avec les activités agropastorales, avec l'eau, avec l'électricité. Personne n'en sait quelque chose. On est dans une obscurité. Nous sommes aussi en train de décrier le manque d'information, non seulement à la population, mais aussi aux autorités politico-administratives par rapport à l'évolution de ces programmes. Comment devrions-nous, par exemple, superviser les travaux sans avoir des informations relatives? Il faut signaler que beaucoup d'obscurité plane sur ce qu'a été la passation de marché autour de ces programmes.
Nous n'avons pas réussi à avoir la réaction du Bureau central de coordination BCECO qui exécute les travaux. Crise d'eau en Mbujimayi au Kasaï oriental. L'eau potable ne coule pas depuis quelques jours des bornes fontaines dans plusieurs quartiers de la ville cuprifère. Les femmes, jeunes et vieux, effectuent de longues distances à la recherche de cette denrée devenue rare. Un bidon d'eau se vend actuellement en Mbujimayi à 1000 francs congolais. Pourtant, il y a une semaine, le bidon se vendait à 500 francs congolais. Des explications avec Esther Ndalafina.
Les quartiers les plus touchés par la crise d'eau sont notamment les quartiers de la Poste, Boubanji, Masanka et Nkonga. Les jeunes filles et les femmes ménagères se réveillent tôt le matin à la recherche de l'eau potable.
C'est depuis 6 heures qu'on attend l'eau au robinet, mais ça ne coule pas. Hier, nous avons préparé la nuit à cause du manque d'eau.
Un bidon de 20 litres d'eau qui se vendait à 500 francs se négocie à 1000 francs congolais dans certains quartiers. Explication de Nestor Mbuyamba, vendeur d'eau de bidon.
Maintenant, nous allons plus loin, côté hôpital général de Dikoumba. Sur d'autres robinets, l'eau coule autour de 10h ou 12h et on coupe autour de 14h. Comme la fourniture est devenue irrégulière, les prix augmentent.
Au niveau de la régie des eaux, on évoque le problème d'énergie électrique et le manque de carburant. Didier Mboudilelo, directeur provincial.
Dès lors qu'il n'y a pas de solution volontariste ici en énergie, on aura toujours des problèmes. Il y a eu des pannes sur le groupe électrogène. Il y a aussi un problème de carburant. Ça ne marche pas. Et tout ça, ça impacte négativement sur le travail de la régie des eaux.
Pendant que les quartiers du centre connaissent la crise d'eau, d'autres quartiers sont bien alimentés en eau potable par les AZUREP, l'association des usagers des réseaux d'eau potable. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Vous l'avez bien corrigé avec moi, Esther Ndalafina a été en direct de la ville diamantifère.
Actualité internationale.
Au lendemain de la décision de la CEDEAO de déployer sa force en attente à l'issue du sommet d'Abuja, des milliers de Nigériens ont manifesté hier vendredi à Niamey, près de la base militaire française, en soutien à la junte du CNSP.
L'invité.
Au Nord Kivu, la deuxième phase de la campagne de vaccination a été lancée mercredi dernier à Goma par le gouverneur. Le gouverneur général Constant Dima, environ 2 millions d'enfants de 0 à 59 mois sont concernés par cette vaccination contre la poliomyélite sauvage sur l'ensemble de la province. Comment va se dérouler exactement cette activité qui a débuté hier jeudi dernier sur toute l'étendue de la province Nord Kivu? Nous recevons à ce sujet le chef de division de la santé, Janvier Koubouya, pour nous en parler. C'est dans un entretien avec Bernardine Diambou.
Janvier Koubouya, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de lancer la campagne contre la poliomyélite. Dites-nous exactement, ça va se dérouler comment?
Les équipes ont été formées pour passer porte à porte. Elles sont dotées de tous les nécessaires, notamment les vaccins, les comptes-gouttes et les autres matériels importants pour que cette campagne soit de qualité.
Au Nord Kivu, avec le contexte de la guerre, comment comptez-vous s'y mettre pour atteindre les enfants, par exemple, qui sont dans les zones en conflit?
L'avantage aujourd'hui, c'est que la santé n'a aucune couleur, encore moins une couleur politique. Que ça soit à Rutshuru, que ça soit à Beni, que ça soit à Masisi. Bref, dans toutes les zones où s'est vue une insécurité malheureusement, nous avons encore du personnel de santé qui travaille. Nous avons des centres de santé qui fonctionnent, malheureusement en dépit de l'insécurité. Mais il y a des équipes qui sont partout et tous ces enfants se retrouvant dans ces zones-là, ils sont également concernés. Et nous avons nos partenaires d'appui, parce qu'il faut les souligner, nos partenaires d'appui, même si nous, de manière un peu plus pratique, nous n'avons pas tous les moyens pour arriver jusqu'au niveau de ces zones-là. Nous sommes en train de travailler avec tous ces partenaires et ils nous ont donné des contributions importantes pour non seulement acheminer les vaccins et tout ce qui est autour de la vaccination pour que, effectivement, ils ont acheminé tous ces intrants de base au niveau de ces zones-là. Et comme je disais, les équipes étant déjà présentes dans ces zones-là, elles vont devoir vacciner tous les enfants comme c'est le cas dans les zones de santé où il n'y a pas d'insécurité. Il y a beaucoup d'enfants, surtout au Nord Kivu, avec ces déplacements des populations qui n'ont pas eu la chance d'être stables et fréquenter des établissements de soins pour recevoir le vaccin. Bref, toutes ces conditions font assez que, effectivement, qu'il y ait deux enfants qui ne soient pas correctement vaccinés. Et dans des campagnes comme celle-ci, nous mettons tout en œuvre pour également récupérer tous ces enfants.
Quel est le message que vous lancez auprès des parents, peut-être qui hésitent encore de faire vacciner leurs enfants?
C'est que nous tous, nous devons savoir que la vaccination, c'est un droit pour chaque enfant. La poliomyélite, c'est une maladie évitable par la vaccination. Et la vaccination, elle est gratuite. Malheureusement, si un enfant est atteint par cette grave maladie, s'il ne meurt pas, en tout cas cet enfant a de forts risques de pouvoir développer une infirmité qui est irréversible. Et c'est ici vraiment l'occasion de remercier notre gouvernement qui commence aujourd'hui à acheter le vaccin. Ça n'a pas été vécu dans les années précédentes. Aujourd'hui comme hier, tout le partenaire, la liste elle est longue, qui nous aide, ok? Il contribue énormément, effectivement, non seulement à l'achat de vaccins, mais également en mettant à notre disposition tous les nécessaires pour que ces services de vaccination soient gratuits, comme cette campagne. En tout cas, il faut vous dire que nous avons reçu des moyens. les nécessaires, y compris l'argent, pour payer les équipes de vaccination.
D'accord. Même les enfants qui sont malades peuvent se faire vacciner aussi?
Même les enfants malades, les 0 à 59 mois, ils sont concernés par ces activités de vaccination.
Et les activités vont durer combien de jours?
Théoriquement, c'est 3 jours. Donc les équipes vont passer porte à porte, demain, jeudi, vendredi, samedi. Mais notre objectif majeur, c'est atteindre tous les enfants. Même si c'est la vaccination contre la poliomyélite, mais nous récupérons également tous les autres enfants qui n'ont pas eu l'avantage de recevoir d'autres vaccins, notamment le vaccin contre la tuberculose, le vaccin contre la rougeole, le vaccin contre la diphtérie, les tétanos, la fièvre jaune, etc.
Jean-Pierre Koubouya, vous êtes le chef de division provinciale de la santé et Radio Okapi vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Le chef de division de la santé au Nord Kivu, Jean-Pierre Koubouya, a été notre invité dans un entretien à Goma avec Bernardine Diambou. Fin de ce journal qui a été supervisé demain de maître par Pelekipe Lamondo, Jacques-Yves Molima l'a coordonné et Pierre Diassounois l'a mise en onde. À leur nom, infiniment merci à vous de l'avoir écouté.